Chapitre 6. Maria, dirigée dans l'arrangement de sa toilette par les conseils de sa propriétaire, se présenta fort mal attifée. Elle portait une robe de foulard trop courte et émaillée des couleurs les plus criardes, une coiffure disgracieuse ornementée de rubans rouges pleins de roideurs, une mantille de tulle blanc et bleu garnie de dentelles de Catalogne qui la faisait paraître encore plus brune. Telle était sa mise qui nécessairement devait faire et fit mauvais effet. La comtesse fit quelques pas pour aller à sa rencontre. Quand elle passa près de Raphaël, celui-ci, se rappelant les paroles de la fable du corbeau de La Fontaine, lui dit à l'oreille « Si le ramage ressemble au plumage, c'est le phénix de ces bois. » « Combien nous vous sommes reconnaissants, dit la comtesse à Maria, d'avoir bien voulu venir pour satisfaire le désir que nous avions de vous entendre. Le duc vous a tant vanté. » Maria, sans répondre un mot, se laissa conduire par la comtesse à un fauteuil placé entre le piano et le sofa. Rita, pour être plus près d'elle, avait abandonné sa place accoutumée et s'était placée auprès d'Héloïse. « Mon Dieu !» dit-elle en voyant Maria, « elle est plus noire qu'un boudin de l'Estramadure. » « Ne semblerait-il pas, ajouta Héloïse, qu'elle a été habillée par son plus grand ennemi ? Qu'en pensez-vous, Raphaël ?»« Ce grand pli qu'elle a entre les deux sourcils, répondit Arias, lui donne tout à fait l'air d'une licorne. » Cependant, Maria ne laissa pas échapper le moindre symptôme de timidité ni d'embarras, en face d'une réunion si nombreuse et si brillante. Son calme inaltérable et son aplomb ne se démentirent pas un seul instant. Avec ses regards interrogateurs et pénétrants, avec sa vive intelligence et son tact d'espagnol, 10 minutes lui suffirent pour tout observer et juger. « J'y suis !» se disait-elle intérieurement, et en se rendant compte de ses observations. « La comtesse est bonne et désire mon succès !» Ces jeunes élégantes se moquent de moi et de ma toilette qui doit être affreuse. Pour les étrangers qui me toisent dédaigneusement avec leurs lorgnons, je suis une Donia Simplicia de village. Pour les vieillards, je suis un zéro. Les autres restent neutres, tant par égard pour le duc qui est mon protecteur et entend se montrer tel, que pour être libre ensuite de pencher du côté de l'éloge ou du blâme, selon que l'opinion se prononcera pour ou contre moi. Pendant tout ce temps, la bonne et aimable comtesse faisait tous ses efforts pour lier conversation avec Maria. Mais le laconisme de ses réponses déjouait ses bonnes intentions. « Aimez-vous beaucoup ces villes ?» lui demanda la comtesse. « Assez, » répondit Maria. « Et comment vous paraît la cathédrale ?»« Trop grande. » « Et nos belles promenades ?»« Trop petites. » « Eh bien ?» Qu'est-ce donc qui vous a plu davantage ? Les courses de taureaux. La conversation s'arrêta là. Au bout de 10 minutes, la comtesse lui dit « Voulez-vous me permettre de prier votre mari de se mettre au piano ?»« Quand il vous plaira. » Stein se mit au piano. Maria, que le duc y avait conduite par la main, se mit debout à côté de lui. « Trembles-tu, Maria ?» lui demanda Stein. « Eh, pourquoi tremblerais-je ? » lui répondit Maria. Tout le monde fit silence. On pouvait remarquer différentes impressions sur les physionomies des assistants. Chez la plupart, se peignaient la curiosité et la surprise. Chez la comtesse, un intérêt plein de bonté. À la table de jeu, ou, comme disait Raphaël, à la chambre haute, la plus complète indifférence. Le prince souriait dédaigneusement. Le major ouvrait les yeux comme s'il pouvait lui servir à entendre. Le baron fermait les siens. Le colonel bâillait. Sir John profita de ce moment pour ôter son lorgnon et le frotter avec son mouchoir. Raphaël s'échappa dans le jardin pour fumer un cigare. Stein joua simplement et sans fioriture la ritournelle de Cassadive. Mais à peine la voix de Marie s'éleva-t-elle, pure, tranquille, douce et puissante à la fois, qu'il sembla que la baguette d'un enchanteur avait frappé tous les assistants. Tous les visages exprimèrent l'étonnement et l'admiration. Le prince laissa involontairement échapper une exclamation. Quand elle eut fini de chanter, une tempête d'applaudissements éclata dans toute la réunion. La comtesse donna l'exemple avec ses mains délicates. « Miséricorde divine !» s'écria le général en se bouchant les oreilles. « On dirait que nous sommes sur la place des taureaux. »« Laisse-les, Léon, » dit la marquise, « laisse-les s'amuser. Cela vaut mieux que de médire du prochain. » Stein se tournait de tous côtés, se confondant en politesse. Maria retourna à son fauteuil, aussi froide et aussi impassible qu'elle l'avait quitté. Elle chanta ensuite des variations vraiment diaboliques, dans lesquelles la mélodie demeurait parfois un peu confuse, tant elle était enveloppée dans les fioritures et les trilles. Elle s'en tira avec une aisance admirable, sans effort ni violence, et causant chaque fois plus d'étonnement à ses auditeurs ravis. « Comtesse, dit le duc, le prince désirerait entendre des chansons espagnoles, car on les lui a beaucoup vantées. Maria excelle dans ce genre. Auriez-vous l'obligeance de lui procurer une guitare ?»« Avec grand plaisir, répondit la comtesse. » Et à l'instant même, son désir fut satisfait. Raphaël s'était placé près de Rita après avoir installé le major auprès d'Héloïse. Celle-ci s'efforçait de persuader à l'anglais que les Espagnols se mettaient au niveau des étrangères quant à l'artifice et à l'affectation des sentiments tendres, car on sait que ceux qui imitent servilement copient mieux les défauts que toute autre chose. « Quels yeux elle a !» disait Raphaël à sa cousine, « et comme ils sont admirablement garnis de longs cils noirs, ils ont l'attraction de l'aimant. »« C'est toi qui es un aimant pour les étrangers, » répondit Rita. « Pourquoi as-tu mis le major auprès d'Héloïse ? Écoute les niaiseries qu'il lui débite. Je te préviens, cousin, que tu es en train d'acquérir la physionomie et la grâce d'un dictionnaire. » « Encore !» s'écria Raphaël en frappant du poing le bras de son fauteuil. « Mais il ne s'agit pas de cela, Rita. Il s'agit de l'affection que j'ai pour toi et qui durera éternellement. Un homme n'aime réellement qu'une seule femme dans sa vie. Quant aux autres, il fait semblant de les aimer. » « Je le sais, dit Rita. Louis me l'a dit assez souvent. Mais sais-tu ce que je te dis, moi ? C'est que tu deviens une montre à répétition des plus fatigantes. »« Qu'est-ce que cela veut dire ? S'écria Héloïse en voyant qu'on apportait une guitare. « Il paraît que nous allons entendre des chansons espagnoles et j'en suis ravie, dit Rita, car elles donnent plus d'animation et m'amusent plus que tout le reste. » « Des chansons espagnoles ? » s'écria Héloïse indignée. « Quelle abomination ! C'est bon pour le peuple et non pour une société distinguée. À quoi pense donc Grâce ? Vous voyez que les étrangers ont raison de dire que nous sommes arriérés, car nous ne voulons pas façonner nos manières et nos goûts suivant les leurs. Nous nous entêtons à dîner à 3 heures et nous ne voulons pas nous convaincre que tout ce qui est espagnol est toison de naissance. » « Mais, dit le major en mauvais espagnol, je crois qu'ils font très bien, indeed, de vouloir être ce qu'ils sont. »« Si c'est un compliment, répondit avec emphase Héloïse, il est tellement exagéré qu'il a plutôt l'air d'une moquerie. »« C'est ce prince italien qui a demandé des chansons espagnoles, dit Rita, et comme il est amateur de musique et connaisseur, cela prouve qu'elles valent la peine d'être entendues. » »« Héloïse, ajouta Raphaël, les barcaroles, les tyroliennes, le rance des vaches sont des chansons populaires dans d'autres contrées. Pourquoi nos boléros et nos autres chants du pays ne seraient-ils pas admis aussi dans la bonne société ? Parce qu'ils sont plus vulgaires, répondit Héloïse. Raphaël leva les épaules. Rita rit aux éclats et le major resta quoi ? Héloïse se leva, prétexta une migraine et sortit accompagnée de sa mère, à qui elle disait en se retirant « Qu'on sache au moins qu'il y a en Espagne des jeunes filles assez intelligentes et assez délicates pour fuir des bouffonneries aussi choquantes. » « L'Abélard de cette Héloïse ne sera pas heureux, » dit Raphaël en la voyant sortir. Maria, outre sa voix magnifique et son excellente méthode, avait encore, comme fille du peuple, l'intuition des chants andalous, avec cette grâce toute particulière dont un étranger ne saurait avoir l'idée et qu'il ne peut apprécier qu'après un long séjour en Espagne et quand il veut bien s'identifier, pour ainsi dire, avec le caractère national. Dans cette musique, comme dans les danses, il y a tant d'inspiration, un charme si puissant, une telle suite de surprises, de plaintes, d'éclats de joie, de langueur, de gestes d'éloignement, suivis d'autres, exprimant l'attrait. Il y a enfin un je ne sais quoi qui se comprend et ne s'explique pas. Et tout cela est si accentué, si réglé au compas, si bien balancé, si l'on peut dire, par la voix dans le chant et par les mouvements dans la danse. L'exaltation et la langueur se succèdent avec tant de rapidité qu'ils tiennent en suspens, enivrent et subjuguent l'auditoire. Aussi, lorsque Marie a pris la guitare et se mit à chanter « Si je me perds, cherchez-moi du côté du midi. Là naissent les brunes jeunes filles, là se produit le sel. » L'admiration se changea en enthousiasme. Les jeunes gens marquaient la mesure en frappant des mains et en répétant « Bien, bien !» comme pour animer la chanteuse. Les cartes tombèrent des mains aux joueurs les plus intrépides. Le major voulut imiter l'exemple général en battant des mains sans rime ni raison. Sir John affirma que cela valait mieux que le « God Save the Queen ». Mais le grand triomphe de cette musique nationale, ce fut que le front du général se dérida. « Te souviens-tu, mon frère ?» lui demanda la marquise en souriant. « Du temps où nous chantions le Zorongo et le Tripoli » « Qu'est-ce que le Zorongo et le Tripoli ?» demanda le baron à Raphaël. « Ce sont, répondit celui-ci, les pères de Sereni et de la Cachucha et les grands-pères de la Jaca de Tiersopelo, du Vito et autres chansons du jour. » Ces particularités du chant et de la danse nationale pourraient paraître de mauvais goût et le seraient certainement dans d'autres pays. Pour se livrer sans réserve aux impressions que produisent nos chants et nos danses, il faut un caractère comme le nôtre. Il faut que la grossièreté et la vulgarité soient, comme elles le sont dans notre pays, deux sensations inconnues. Un Espagnol peut être insolent, mais il lui arrivera rarement d'être grossier parce que c'est contre sa nature. Il vit toujours à sa guise, suivant son inspiration, qui est généralement bonne et sensée. Voilà ce qui donne à l'Espagnol, bien que son éducation soit négligée, ce caractère obligeant, cette gracieuse franchise qui rend son commerce si agréable. Marie a sorti de chez la comtesse aussi pâle et aussi impassible qu'elle y était entrée. Quand la comtesse fut restée seule avec les siens, elle dit d'un air de triomphe à Raphaël. « Eh bien, que dis-tu maintenant, mon cher cousin ?»« Je dis, répondit Raphaël, que le ramage vaut mieux que le plumage. »« Quels yeux ! » s'écria la comtesse. « Ils ont l'air, dit Raphaël, de deux diamants noirs dans un étui de cuir de Russie. »« Elle est sérieuse, dit la comtesse, mais non orgueilleuse. » Et aussi timide, poursuivit Raphaël, que la plus hardie commère d'Ava Pies. « Mais quelle voix, dit la comtesse, quelle voix divine !»« Il faudra qu'on grave sur sa tombe, dit Raphaël, l'épitaphe que les Portugais ont composée pour leur célèbre chanteur Madureira. » Sigi, le seigneur de Madureira, le meilleur chanteur du monde, qui mourut parce que Dieu le voulut, car s'il ne l'eût pas voulu, il ne serait pas mort. Mais comme il en avait besoin dans sa chapelle, Dieu lui dit « Chante ». Il chanta si bien que Dieu dit à ses anges « Allez-vous-en dans la prairie, car le seigneur Madureira chante mieux que vous. » « Raphaël, éternel moqueur, dit la comtesse, qui peut échapper aux ciseaux de ta critique. Je vais faire faire ton portrait en oiseau moqueur, comme on a fait celui de Paul de Kock sous la figure d'un coq. » De cette manière, dit Raphaël en s'en allant, je ferai une harpie mâle qui aura l'avantage de ne pouvoir propager la race.